Oui, ben c'est ça, j'aurais dû m'en douter. En fait, Nicolas Sarkozy s'est déplacé hier à Sancerre avec 160 gardes mobiles. Tout ça pourquoi ? Pour boire un verre de vin. Évidemment, bon, ça fait un peu cher le verre de vin, surtout avec 200 journalistes directement affrétés par le ministère de l'Intérieur. Enfin, on peut toujours rêver. Si seulement Sarkozy se mettait vraiment à boire, comme Delarue par exemple, avec deux ou trois Trenxen dans le cornet, ça serait marrant. Bon, enfin, il en a profité aussi pour promettre d'autoriser la pub pour le pinard, en rappelant bien que le vin, c'est pas comme la drogue. Alors bon, je sais pas, il faut savoir quand même qu'après un verre de Sancerre, Sarko peut dire à peu près n'importe quoi. Prochaine étape, peut-être, Damary-les-Lys, où Sarko va venir tirer une taf ou deux sur un bédo avec des jeunes, et puis déclarer la drogue, c'est pas comme le pinard. Legalize it, man. Et puis dernière étape, je crois, c'est aller vomir sur la tombe de Papon, pour faire ton sur ton.
Salut Daniel, c'est Mélène à Sancerre. Un camarade a laissé un message hier au sujet de la venue de Sarkozy à Sancerre. Alors voilà, c'est comment s'est passée un petit peu la manif. Donc on était une quinzaine de personnes avec le réseau RESF. On a vu une banderole en faveur des sans-papiers. Donc une personne du cabinet du ministre est venue nous proposer un entretien avec je ne sais quelle énergumène en échange d'enlever la banderole, ce qu'on a bien sûr refusé. Donc on a vu débarquer les gendarmes mobiles. Donc il y en avait 25 pour les 15 dangereux activistes que nous étions. Ils nous ont dégagés sous les applaudissements du public, donc j'en attendais pas moins d'eux. Ils nous ont promenés dans les rues et non seulement donc contents de nous avoir dégagés, ils nous ont bloqués pendant plus d'une heure trente dans une petite rue isolée. Alors le matin, il s'était passé la même chose avec la CGT à l'usine, la fabrique de porcelaine Pili 8 à Melun-sur-Yèvre. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe avec Sarkozy. Et heureusement qu'il n'est venu qu'en tant que candidat. En tout cas, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir s'il était aussi petit qu'on dit. Allez, salut.
En juin 2006, Sarkozy tient un meeting électoral à Agen. Pour assurer sa sécurité, il a mobilisé une compagnie de CRS, une cinquantaine de gardes mobiles, une trentaine de fonctionnaires de police de la sécurité publique, 11 agents des renseignements généraux et entre 20 et 30 militaires de la compagnie de gendarmerie d'Agen et un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Extrait du livre que je conseille, Le Petit Démagogue de Jean-Luc Porquet. À l'heure actuelle, où les violences sur les personnes sont de plus en plus nombreuses, où il est difficile de joindre les deux bouts, je me demande combien coûte une journée pour la sécurité de Nicolas Sarkozy dans un meeting.
Et bonjour toute équipe, mon cher monsieur, oui, hier je vous ai entendu après-midi, vous étiez à l'entrée de l'UMP à Paris, là, voilà, alors je bondis là sur votre journaliste, mais arrêtez, mais foutez le bon racaille, l'adjoint de monsieur Sarkozy le précise bien, mais vous êtes, c'est vraiment une bande d'imbéciles ces jours, vous n'avez que ça en tête, le bon racaille, mais c'est la vérité, et ce n'est pas monsieur Sarkozy qui l'a dit, le bon racaille, c'est une dame des cités qui l'a crié, on a plein de racailles, donc il a bien précisé, je vais vous débarrasser de le mot racaille. Mais arrêtez, dites un peu aux journalistes qu'ils soient intelligents. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai vu le reporter sur la 6 dimanche. Bien sûr, on a parlé de... Mais on n'a pas montré la dame qui criait à M. Sarkozy, on a de la racaille. Mais enfin, vous êtes vrai d'une malhonnêteté, dites à votre journaliste, là, que j'entends, il est 8h50. Mais qu'est-ce que le mot... C'est pareil que le mot Karcher. Il y a la dame, Madame Rachida, elle a bien expliqué pourquoi il a visité des maisons qui étaient vraiment... dans un état épouvantable, des appartements, il a dit on va vous débarrasser de ça avec le casque. Mais alors, moi je trouve ça d'une malhonnêteté, vos journalistes, et encore on répète, et voilà, bien sûr, vos standardistes prennent des mots, prennent des gens qui vont parler du mot racaille. Mais c'est des journalistes que c'est de la racaille. Faut arrêter, on en a assez. C'est pas lui, on vous répète que c'est pas lui, le gars qui l'a déjà de M. Sarkozy est là à l'antenne, il nous dit que c'est pas lui, c'est la dame des cités qui lui a crié ça.
Ouais, bonjour. Alors, il vous l'a dit, bande de nazes, Nicolas Sarkozy, qu'il allait changer les choses. Et insidieusement, ça change tout doucement, vous en apercevez même pas. Hein. Écoutez un peu les infos. Là, ce matin, le journaliste du 7-9 qui passe le micro à Bruno Duvic, hein, vous n'avez rien remarqué. Il n'a pas dit 9h01, il a dit les 9h60 secondes. Hein. Alors, c'est pas du changement, ça. Bande de nazes, écoutez un peu.
Bah dis donc, ça chauffe hein, dans le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous avez une petite révolution là, si vous écoutez un peu derrière ma voix, vous entendez plus les petites voix qui murmuraient pendant des années, puis finalement ça vous a agacé, on a reçu des courriers d'auditeurs, des mails, qui ont dit oh là là, c'est pas beau ce truc derrière, alors voilà, on l'a supprimé. Mais on avait pensé aujourd'hui une petite ambiance de rue, vous voyez, des sons de rue comme ça, de la rue d'Anguin par exemple, ça n'a pas été possible. quelqu'un de l'équipe est allé ce matin essayer d'enregistrer simplement la rue. Ah, voilà, non? Donc voilà, ça a été interdit. Vous pouvez pas aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vous balader vers le faubourg Saint-Denis avec un micro et enregistrer. Non, 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 il faut montrer patte blanche et micro bleu. Bon, voilà, et ben on va se balader ailleurs. On va aller se promener. Tiens, on va aller à Limoges, nous, hein, faire une petite visite surprise à Limoges, parce que il y a eu une bataille à Limoges très très passionnante. Contre la grande distribution, contre un hypermarché qui voulait s'implanter à côté de Limoges. Et voilà, Tipoc, vous avez une bande de récalcitrants, de réfractaires, qui se sont réunis, qui ont constitué un collectif. Et bien, le gros supermarché, un mammouth, mais enfin, c'était à peu près la même chose, vraisemblablement ne s'implantera pas. Encore que ce soit pas tout à fait sûr, mais c'est ce combat qu'on va évoquer avec vous. Évidemment, la question de la grande distribution et des grandes surfaces, etc. C'est un sujet, on dit, oh, bon, allez hop, c'est comme ça. Et non, il y a des récalcitrants, surtout dans ce coin-là, d'ailleurs, autour de Limoges. C'est là où nous allons après les messages que voici parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, et j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Patrick de Perpignan. Voilà, je téléphone, je voulais remercier l'émission, puisque la semaine dernière, j'ai téléphoné pour annoncer une exposition sur la guerre d'Espagne. Et donc, mon message est passé, et ça a fait venir plein de gens à notre expo. Donc, des gens qui sont venus grâce à la base, et j'y suis. Il y en a un gars qui est venu, qui a fait 400 km exprès, donc il se reconnaîtra peut-être, je le salue. Mais voilà, c'était super. On a eu plein de monde et l'expérience sera renouvelée au mois d'août prochain.
Ce mardi 27 février, c'est le jour où les amis de la base où j'y suis se retrouvent au repère chez Marie et Pierrot à Ploubalet à 20h comme d'habitude. Les sujets retenus sont l'eau et le travail ce soir. Voilà. Donc on vous attend nombreux à ce soir, mardi donc 27 février à 20h chez Marie et Pierrot.
L'essentiel, c'est de sourire. Hein. Comprenez? Faut que les gens qui viennent faire leurs courses aient envie d'acheter. Hein? Un supermarché, ici. La musique, tout ça. Hein? Faut que les gens soient bien. Comprenez? Souriez, là, ouais. Non, mais faites un effort, souriez. Mais c'est pas la peine. Allez. Dégage. Allez. Charlot.
Un centre commercial m'avait demandé de rester chez moi pendant mes jours de repos et mes heures de pause pour que je sois disponible au moment s'ils avaient un souci, un manque de caissière. N'importe quand.
À n'importe quelle heure,
donc j'avais refusé, j'avais pas été embauchée.
Pas à peine de venir pleurer pour du travail.
69,40€.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec Olivia Gesbert, la guerre contre le casino.
Flight number 2, arriving from...
Toute dernière trouvaille de la technique moderne, le supermarché du Faubourg Bonnefoy, où les mots d'ordre sont jolis et fonctionnels. Le supermarché a ouvert ses portes mardi dernier pour les amis, et ils étaient nombreux, le lendemain pour les clients, qui seront sûrement encore plus nombreux. Le poulet s'y vend tout rôti. Que le chaland soit badaud ou pressé, la circulation coule facile. Comme les viandes et la charcuterie, les légumes et les fruits se présentent préconditionnés dans des comptoirs réfrigérés. et un ascenseur conduit directement le petit chariot de provisions à la voiture de madame.
La ville Leclerc.
La vraie.
Carrefour.
Auchan.
La preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour.
Géant.
Casino. Carrefour. Sourire suivant.
Que de temps passé entre le, ces années 60, le début de ces années 60, où l'on s'émerveillait que le poulet pouvait s'y acheter tout rôti. Et aujourd'hui, la marche entre le supermarché et l'hypermarché, l'histoire de la grande distribution, est une histoire que nous connaissons bien, mais à laquelle, bon, ben voilà, on a fini par se dire, ben c'est ainsi, oui, bien sûr, bon, les grandes surfaces, c'est la mort du petit commerce, c'est la bouffe en plastique, c'est les caissières en batterie, on a beaucoup râlé, on a traîné les pieds. Et puis, bof, ben voilà, on pousse le caddie, on se rend à l'évidence. Mais pas tous, il y a de la résistance. Et pas seulement la résistance folklorique de quelques Gaulois moustachus. Non, une véritable résistance qui s'est organisée à côté de à Limoges, autour de Limoges. Il y avait un projet d'implantation d'un immense géant. Casino à Fétia, exactement, 20 000 mètres carrés dans la banlieue de Limoges. Or, vraisemblablement, très très vraisemblablement, ce géant casino n'existera pas, ne sera pas implanté, et s'il n'est pas implanté, s'il n'est pas établi, s'il n'est pas construit, eh bien c'est le fruit d'une longue lutte que nous avons voulu évoquer avec Olivia Gesbert aujourd'hui, histoire de se dire... On ne perd pas toujours.
La ville
Leclerc.
La vraie.
Carrefour.
Auchan.
La preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour.
Géant.
Auchan.
Casino.
Carrefour.
Sourire suivant.
Monoprix.
Qui demande aux consommateurs ce qu'ils pensent de la consommation ?
J'habite à la périphérie d'une ville, à côté de ma maison, il y a des tas de maisons qui ressemblent à ma maison. Je roule dans une automobile. À côté de mon auto, il y a des tas d'autos qui ressemblent à mon auto. Bosse dans une tour où l'on s'empile. À côté de mon bureau, il y a des tas de bureaux qui ressemblent à mon bureau. Le samedi, à mon hyper, je file. À côté de mon caddie, il y a des tas de caddies qui ressemblent à mon caddie. On est tous pareils, mais on n'aime pas ça. C'est pour ça que des fois, il y en a un qui tire dans le tas.
Non, continue.
Mais non,
on gêne pas. Tu t'arrêtes là, au milieu, là. Voilà, là... On vient de traverser une partie de la zone industrielle de Fétia. Là, on est juste à côté de c'est l'autoroute A20, donc Paris-Toulouse. Et juste en dessous arrive la déviation de Limoges. Donc Limoges a une déviation sur 4 voies. Et c'est vrai que je comprends que sur le plan commercial, d'un côté l'autoroute, de l'autre côté la déviation qui dévie tout Limoges, qui aboutit juste en face des terrains, je dirais c'est rêvé sur le plan commercial, quoi. Et c'est là où on s'apprêtait à installer un immense hypermarché, donc 20 000 mètres carrés de grande surface, 70 boutiques, bowling, cinéma, pizzeria, etc. Donc un immense centre devait s'installer ici, à part que ces terrains, c'était une décharge. Ici, il y a 18 mètres d'ordures qui sont dessous de nous. Alors, on nous présentait ça comme en disant on va à tout prix dépolluer, mais il s'agissait de récupérer les gaz juste sous les bâtiments, mais il y avait d'immenses parkings qui vont être bétonnés, où là, les parkings ne seront pas, eux, dégazés. Quoi. C'est-à-dire que les poches de gaz qui peuvent se former sous les parkings, rien n'est prévu. Et je trouve que c'est complètement irresponsable de faire prendre des risques aux gens, parce que personne ne peut dire qu'il ne va pas y avoir un danger.
Alors là, on a rendez-vous avec un militant écologiste, un conseiller municipal de la ville de Limoges. On a rendez-vous là, avec lui ?
Oui.
D'accord. Bon, on va sortir deux minutes, en attendant.
Oui, oui.
Respirez ce bon air.
Je vais se faire incendier.
Respirer le bon air de cet endroit à côté de Limoges, Fethia. Ce qui est important là, c'est que la voix qu'on entend, c'est celle d'Yvan Tricard, qui est un peu l'animateur de ce collectif, le porte-parole un peu de ce collectif, qui depuis plusieurs années lutte contre l'implantation de ce casino, de ce supermarché, hypermarché casino. Mais l'important, c'est qu'il parle au passé. Il dit c'était prévu. Il en a fallu du temps pour parler au passé, parce que il semble bien que ce soit largement compromis. Le tribunal administratif ayant donné raison exceptionnellement à ce collectif qui s'opposait à l'implantation de cet hypermarché. Pas seulement pour les raisons, bon, cette implantation sur une ancienne décharge avec tous les risques que ça peut présenter, mais pour beaucoup d'autres raisons qui vont être évoquées au fur et à mesure et qui sont une élaboration, une réflexion, et on va le voir indépendamment de tous les aspects important et bien connu concernant les supermarchés, les hypermarchés, la grande distribution, les problèmes d'enlaidissement du paysage, le problème de la disparition des petits commerces locaux, la consommation, l'hyperconsommation comme seul horizon, la destruction du lien social, etc. L'anéantissement des emplois existants pour créer en fait peu d'emplois et des emplois précaires, des mi-temps ou des temps partiel non choisi, etc., toutes ces raisons, mais aussi tout simplement parce qu'il s'agit de choix de vie, de façon de vivre complètement différente entre une vie avec où acheter la nourriture ou les objets est une occasion de lien, une occasion de culture, ou bien une occasion uniquement complètement absorbée par le seul et unique profit. Et on va voir comment on peut dire de la grande distribution qu'il s'agit d'une véritable dictature économique. Contre ces arguments qui sont connus, que vous connaissez, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous disons là, il faut bien dire que la plupart du temps, les élus ne sont pas les plus courageux pour lutter contre l'implantation abusive de cette grande distribution et de ces supermarchés. Ils y voient un certain nombre d'avantages, bien souvent, il faut bien le dire aussi, des avantages électoraux. C'est dire si un élu, celui qui va parler maintenant, a tout de même quelques mérites.
Alors derrière nous, il y a le golf de la ville de Limoges, le golf public. Entre deux, il y a une grande autoroute à deux voies. Et puis à droite, il y a ce site immense avec toute sa vieille verdure desséchée. On est sur une zone industrielle, la zone du Pontet. Et on est surtout entre Quick à gauche et Castorama à droite. J'ai presque envie de dire, un peu comme dans la publicité pour ce pack de lessive, c'est dans ce cadre de nature idéale avec des voitures derrière, une décharge devant, qu'on a envie de raconter votre combat. Alors, il commence quand ce combat ? Autour de 2002, 2003 ?
Je dirais c'est autour de 2003, en rentrant du Larzac, où on avait assisté à un débat sur les méfaits de la grande distribution, qu'on s'est posé ici la question en disant qu'est-ce que donne l'arrivée d'une grande surface supplémentaire dans une zone comme Limoges ? Et c'est là où nous sommes commencés à nous poser la question.
Qu'un premier groupe de militants, mais tout simplement aussi d'habitants de la région, ont commencé à se demander quels peuvent être les impacts de la grande distribution, d'une grande surface sur son environnement économique et social. C'était ça les premières questions.
Voilà. Ici déjà à Limoges, il y a six grandes surfaces. Donc on est au-delà de la moyenne nationale. On est déjà bien desservi. Sur un rayon de 10 km, on a 6 grandes surfaces autour de nous. Donc, en mettre une septième, est-ce qu'on pousse vers ce type de fonctionnement en France, ou est-ce qu'au contraire, on ne dit pas à un moment donné un peu stop, et est-ce que la grande distribution ne présente pas plus d'inconvénients que d'avantages en termes d'emploi, de style de vie, de méthode de vie, etc. Le résultat de cette prolifération de la grande distribution fait qu'il y a 15 000 paysans qui disparaissent par an. C'est-à-dire, il faut être clair, c'est trois fois Moulinex qui disparaît tous les ans dans le monde agricole. Je dirais sans que personne ne s'en émeut beaucoup, quoi.
Salut.
Jean-Louis Pagès, bonjour.
Olivia. Vous êtes donc Jean-Louis Pagès et vous êtes un élu de la municipalité de Limoges.
Tout à fait, oui.
D'accord. Et vous faites partie d'un de ces rares élus qui s'est opposé à ce vaste projet casino de 20 000 mètres carrés implanté là, dans la zone de Fétia.
Nous sommes non seulement rares, nous sommes les seuls élus de toute la municipalité qui s'y sont opposés. Le cahier des charges officiel qui a été fait avant la construction du supermarché était indiqué qu'on devait surélever à 1 mètre les postes de gaz pour éviter les explosions, parce que vous avez des émissions de méthane qui sont dangereuses et d'ailleurs qui rendaient l'emplacement impropre pour un hôpital, pour une école, etc. Mais en revanche, on pouvait pousser son caddie, paraît-il, sans problème. Et c'était la première raison.
C'est ce qui explique peut-être qu'il y ait la grande barrière là en ce moment autour du site où aurait dû s'implanter le grand géant casino. On ne peut pas aller se balader dessus pour l'instant. Alors c'est peut-être pollué, mais il y a quand même des vieilles plantes qui poussent dessus.
Même à Tchernobyl, on a des plantes qui poussent, ça c'est pas une preuve. Il y a des chardons, oui. Il y a énormément de supermarchés, d'hypermarchés à Limoges et dans l'agglomération. Et avec, je pense qu'on est déjà dans le peloton de tête de la France, mais avec ça, on passait quasiment dans le peloton de tête européen. Et pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable, d'autant que la grande surface en tant que telle, c'est pour nous le symbole de la centrale d'achat, et c'est ce qui a, en Limousin, et comme ailleurs, partout ailleurs, a contribué à décimer les petites et moyennes entreprises locales. Et c'est pour nous le combat, je dirais, au-delà du problème environnemental, au-delà du problème de dangerosité de la circulation, c'était un problème de choix économique sur des modèles de développement. Et c'est là-dessus que dans une ville de gauche, dans un département de gauche, dans une région de gauche, l'enjeu, il était de taille. C'est pour ça, je crois d'ailleurs, que beaucoup d'associations se sont mobilisées en disant qu'il fallait, pour une fois, mettre en ligne les grandes affirmations théoriques et les manifestations qu'on fait dans la semaine avec les décisions que prennent les élus dans les conseils municipaux où la gauche est majoritaire.
Yvan Tricard.
Le maire de Limoges, Alain Rodet, l'a dit lui-même son objectif. Il veut faire de Limoges une grande mégapole. Une grande mégapole capable de concurrencer Bordeaux, Clermont-Ferrand et Toulouse. Et à partir de là, il faut concentrer sur Limoges tous les moyens universitaires, les hôpitaux, le commerce, le Zénith, la FNAC, etc., etc. Je dirais on est en train de transformer les villes en villes-banlieues. La perspective pour un jeune Limougeot aujourd'hui, c'est de prendre sa voiture, de venir sur un parking de 10 000 places, aller au cinéma, manger au Quick ou à la pizzeria. Franchement, je trouve que c'est pas la joie, quoi.
C'était pas un projet de vie qui vous convenait, quoi. A priori, de passer vos samedis et vos dimanches là. Alors, en attendant, on va quitter ce poumon noir pour aller à la rencontre d'agriculteurs pour essayer de comprendre un des autres volets de votre combat. Donc on a vu le premier point, le combat écologique, et on va essayer de comprendre aussi le combat économique et social et le combat et le choix de société qu'il peut y avoir derrière en continuant la balade.
La ville Leclerc, la vraie. Carrefour, Auchan, la preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour. Géant,
Casino, Carrefour. Sourire suivant.
Waouh, ça continue. Je vais pouvoir faire toujours plus d'économies.
Contrairement à ce que l'on croit, contrairement à bien des idées reçues, la prolifération des hypermarchés, des super et des grandes surfaces, la France étant le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre d'hyper et d'hypermarchés par habitant, eh bien, contrairement à ce que l'on croit, ces hypermarchés accélèrent l'inflation, détruisent des emplois, étrangle les producteurs, défigure les banlieues, ça se voit du premier coup d'œil, désertifie les centres-villes et muselle aussi les médias, notamment les médias locaux, puisque un certain nombre de ces médias vivent des annonces passées par ces supermarchés, par cette grande distribution. Et tout ça fait qu'on vit, on peut le dire, un abus et une dictature économique. Alors, on va essayer de comprendre, on sait pas mal de choses, mais on oublie, hein, parce que on est compromis dans cette affaire. Mais c'est quand même quelque chose de... on sait en ces périodes où on est en alerte, on est très hyper réceptif à tout ce qui nous concerne. C'est pas plus mal, c'est-à-dire c'est une époque intéressante. Il nous a semblé, avec Olivia, intéressant de se préoccuper de ces questions, d'autant plus que là, on est en présence d'une lutte longue, mais qui semble bien avoir toutes les chances d'aboutir favorablement. Alors, on l'a dit, c'est les supermarchés déciment les petites entreprises locales. Au début de cette aventure, après la Deuxième Guerre mondiale, on se disait, c'est pas mal, parce que voilà, c'est ce système de distribution va permettre de passer directement du producteur au consommateur. Il y avait tous ces intermédiaires qui se sucraient au passage, et on le déplorait, et on dénonçait. Alors, au début, Édouard Leclerc, par exemple, était le symbole de ça. C'est-à-dire qu'on avait un circuit court, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Il y a une situation de monopole de la part de ces supermarchés, notamment de la part des centrales d'achat qui se partagent le marché, qui sont au nombre de 5 seulement, c'est-à-dire qu'entre les agriculteurs et les entreprises, on compte à peu près 400 000 agriculteurs et 70 000 entreprises qui sont concernées par la grande distribution, et puis les 62 ou 3 millions de consommateurs que nous sommes censés être, eh bien, il y a ce goulet d'étranglement, ces fourches caudines des centrales d'achat qui ont tout pouvoir. Donc, il ne s'agit pas des bienfaits tant vantés de la concurrence, mais au contraire, d'une situation de monopole. Alors bien sûr, mais déjà dans les années 60, on disait, ces grandes surfaces s'installent au détriment du petit commerce, au détriment du petit producteur qui fait des choses si bien, si pittoresques et si sympathiques à la main. Et on pensait que, ce serait effectivement, peu à peu, tout cela serait folklorisé. Mais il y a des mœurs et des formes de culture, de vie et d'économie aussi, tout simplement, qui ont la vie dure. La preuve, visitons cette petite fromagerie.
Alors là, on se trouve à 25 km de Limoges. La famille Madefay a fait partie depuis le début de cette bataille contre la grande distribution. Donc on a... C'est au cours du Forum social du Limousin, en tant que paysans, ils sont venus nous raconter la bataille qu'ils menaient justement contre la grande distribution et comment ils voyaient d'un mauvais œil, je dirais, cette difficulté commercialisation en permanence, être obligé de se racheter à tout ça. C'est vrai que la grande distribution voulait leur acheter leur production, donc ils ont refusé, ils ont préféré rester en circuit court et pour les bovins et pour le fromage.
Ça va ? Ça va. Christelle ?
Bonjour, Olivia.
Maman ?
La chef ?
La chef, je laisse faire maintenant. J'ai rempli mon devoir.
Et vous avez pas
je dit, leur ai mis entre les mains le fromage.
Alors là, c'est un hameau de femmes en tout cas. Hein. Où sont les hommes?
Les hommes,
au boulot.
Voilà.
Alors qui est ma guide aujourd'hui?
Il paraît que c'est moi.
Il paraît que c'est vous.
Chaque fois que je viens chez elle, parce que je viens chez elle acheter de la viande, donc elle donne rendez-vous tout le monde à la même heure. Et on se retrouve donc autour de la table avec du cidre, des gâteaux maison, etc. Et puis, je dirais, c'est pas là où on va moins vite que dans une grande surface.
On a en fait en interne.
C'est-à-dire quoi? On vient ici acheter son fromage ou vous passez par des fromagers en ville?
Actuellement, on est entre 50 et 60% de la vente du fromage qui se fait à la ferme. Voilà. Le reste, c'est les marchés, quelques restaurateurs et le petit magasin à l'entrée de la Jonchère qui a l'avantage de ne pas être franchisé. Donc eux, ils se fournissent où ils veulent. Donc voilà.
On est où là, Nathalie ?
Alors là, on est dans la fromagerie, voilà. En gros, actuellement, on transforme 60 000 litres de lait. Ça fait 6 tonnes de fromage. Quoi.
Vous n'aviez pas eu envie d'augmenter, si le fromage est si bon, d'augmenter un peu vos volumes et puis peut-être de passer par des circuits plus longs, passer par la grande distribution et voir votre marque s'étaler un peu sur les linéaires de la grande distrib.
Moi, je ne veux pas être pieds et poings liés avec la grande distribution. Ça ne m'intéresse pas du tout. On n'est pas un produit industriel, on est un produit fermier.
Et vous dites justement produits industriels. Travailler pour la grande distribution, ça aurait impliqué de changer votre manière de fabriquer le fromage ?
Ah bah ça implique de toute façon chez eux que vous ayez une qualité hyper constante. Et quand vous travaillez en produits fermiers, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que vous avez forcément des variations. Après, il y a souvent l'histoire des quantités. Il y a l'histoire des prix, parce que le problème, c'est ça aussi, c'est que bien souvent, on vous demande de casser bien le prix derrière et puis vous retrouvez votre produit. Nous, on a eu un peu cet exemple-là avec une boutique à Limoges qui nous demandait d'acheter vraiment pas cher le fromage et qu'on faisait un produit de luxe derrière, donc je voyais pas l'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt pour nous, quoi.
Mais quand vous avez eu cette image du pieds et mains ou pieds et poings liés, l'image des menottes vous avez fait avec les mains, ça sous-entend quoi ?
Bah, ça sous-entend que bien souvent, il y a des gens qui s'embarquent justement avec des grandes surfaces comme ça et passent pratiquement toute leur production. Le problème, c'est que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver sur la paille parce qu'on décide qu'on a trouvé un fournisseur plus intéressant et qu'ils ont fait leur production en fonction que ça et ils se retrouvent sur la paille. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette production qu'on ne veut plus nous prendre ? Ça ne donne pas franchement envie de s'embringuer là-dedans. Quoi.
Alors là, c'est la partie fromage, oui. Mais il y a une autre partie, c'est ça ?
Il y a la partie affinage aussi.
Ah oui. Bien.
Voilà, là, c'est la fabrication.
Donc là en bas, c'est la cave derrière la grande porte bleu turquoise.
Bleu turquoise.
C'est la cave d'affinage.
Donc on va descendre. Alors attention, en remontant, on oublie celle-là. C'est une vraie chance d'avoir cette cave en fait.
Ça coûte combien un fromage comme ça, une fois qu'il est affiné ?
Alors, il y a deux tarifs. Quand il est tout jeune, entre 4 et 8 semaines, il coûte 10,20 € le kilo. Et quand il est au-delà de 8 semaines, il coûte 10,50 €, ce qui est tout à fait abordable pour tout le monde. D'ailleurs, ça fait aussi partie de nos principes d'avoir des produits qui restent abordables à toutes les bourses.
En grande distribution, on voit souvent des produits qui sont produits fermiers, qui sont vendus avec un certain nombre de labels. On voit bien qu'il y a une contradiction entre quantité et produits fermiers. Je dirais, c'est forcément un produit industriel qu'on va vous vendre souvent très cher, plus cher que le produit qu'on trouve ici. Là, on nous bluffe.
Tu nous vends un fromage ? Tu m'en vends
au moins un petit morceau aussi.
Mais tu m'en vends.
Alors, Eric ?
Ah, mais je connais.
Mais avec de la salade, avec.
Tiens,
il va. Et moi, je le mange avec la salade.
Oui, bah oui.
Un régal.
Première pommade anti-âge à la glycérine de froment. Effet lifting, effet drainant pour l'épaississement du visage. Pour vos problèmes de pellicule, shampoing, crème à la noix de coco. Phytoprotecteurs radicaux, détendez-vous qu'on vous encule. Je voudrais bien penser comme Souchon, mais on est tous des petits cochons. Le bœuf est un bœuf de la française des bœufs. Foule sentimentale de mes couilles, on suit les plus forts comme des nouilles. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes pneus. Moi je m'en fous ces conneries, ça me berce. J'achète du shampoing pour cheveux sales. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale. On retouche un peu la photo et la petite chanteuse soudain vous emballe. Un peu après, on la fout à l'eau, foule sentimentale, que dalle. Elle passait plus à la téloche, vu qu'on a des moutons moroses. Il suffit qu'une autre fille monte ses loges pour qu'on achète tous la même chose. Je voudrais bien penser comme Souchon, mais on est tous des petits cochons. Le
fait un peu de la française des bœufs. Foule sentimentale de mes couilles, on suit les plus forts comme des nouilles. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes pneus. Moi je m'en fous ces conneries, ça me berce. J'achète du shampoing pour cheveux sales. L'amour est un commerce, mais la décharge est municipale.
Pour inaugurer ce supermarché exceptionnel, puisqu'il pratique la plus forte baisse des prix enregistrée à Besançon, monsieur le préfet du Doubs s'était déplacé en personne. C'est comme un banal client qu'il put visiter les différents rayons du grand magasin avant de se rendre à la réception. Autre intéressante particularité de ce supermarché, un vaste parking permettra la décongestion des rues adjacentes qui posaient auparavant un grave problème. Et tandis que les enfants du quartier regardaient sauter les bouchons de champagne le nez collé à la vitre, les dames invitées recevaient un œillet pour leur boutonnière.
Eh ouais, séduction! Lors de la création, de l'extension, disons, des supermarchés en France, là c'est un document de 1961 ou 62, c'était enthousiasmant, c'était un peu la vie à l'américaine, les parkings, voilà, on s'arrêtait, on mettait la voiture et puis hop, on pouvait faire toutes les courses à toute vitesse et tout, ça enchantait aussi, à la fin du 19e siècle, les dames du bonheur des dames, Émile Zola, souvenez-vous, ce livre qui racontait là, le développement des magasins à rayons multiples. Là aussi, ça allait faciliter les choses. Mais déjà, on avait cette déshumanisation, on avait cette concentration de profits, cet écrasement aussi bien des fournisseurs que des salariés précarisés. Ainsi, en tout cas, que Émile Zola décrivait les choses dans Le Bonheur des Dames. Je cite là un passage du livre de Christian Jacquiot, qui est sorti, je crois, en 2000 chez Albin Michel. Et Christian Jacquiot a eu pas mal de succès avec ce bouquin sur les coulisses de la grande distribution. Pas mal de succès et pas mal d'écho auprès d'un certain nombre de militants de cette association, de ce collectif de Limoges, par exemple, qui a fait son miel de ce bouquin dans cette lutte contre l'installation de ce casino géant, donc à côté de Limoges. On retrouve donc Christian Jacquiot.
Je crois qu'il y a un impact énorme dans un premier temps qu'on peut mesurer chacun d'entre nous sur le commerce, puisque l'implantation d'une grande surface, c'est forcément la disparition du commerce local. On le voit, on sait que la France compte aujourd'hui 36 000 communes et que sur 36 000 communes, 18 000 d'entre elles n'ont plus un seul commerce de proximité. C'est un impact sur le monde agricole, puisqu'on exerce une pression importante sur les fournisseurs, ce qui veut dire que ça donne un espace énorme pour les grosses exploitations agricoles et très peu de place pour les plus petits. Ce qui veut dire qu'en 1945, au sortir de la guerre, on avait 6 millions de paysans, on en a un peu plus de 500 000 aujourd'hui, pas plus, on en perd 30 000 chaque année, du fait justement des pratiques de la grande distribution, qui notamment, si on prend l'exemple de l'agriculture biologique, eh bien aujourd'hui importe des produits de Chine pour les distribuer dans ses rayons. Ça a un impact aussi sur le monde de l'industrie, dans la mesure où on va exiger des prix toujours plus bas des fournisseurs, des industriels, et qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix avec le système des marges arrière, eh bien c'est soit de mettre la clé sous la porte, soit de trouver des pays moins disants socialement, des pays où la vie est moins chère. Et donc, on va évidemment mettre une telle pression que les entreprises disparaissent, et quand on parle d'entreprises, il faut savoir qu'en France, on a 9 entreprises sur 10 qui ont moins de 9 salariés.
Ce que vous rappelez aussi dans le premier chapitre de votre livre et que vous aimez rappeler, c'est qu'au départ, la grande distribution a eu un impact plutôt positif sur son environnement et puis qu'ensuite, il y a eu des dérives.
Oui, c'est vrai qu'au tout départ, je dirais qu'elle a rendu un vrai service aux consommateurs puisqu'il s'agissait de baisser les prix, en fait d'avoir des prix plus bas au niveau des fournisseurs et de pouvoir les répercuter aux consommateurs. La grande distribution a inventé en fait le hard discount, mais aussi avec quelque chose d'assez pervers, c'est que l'idée de Leclerc en 1949 était quand quand même de supprimer le personnel partout où il y en avait, puisqu'il s'agissait pour les consommateurs de se servir directement dans les rayons de la petite supérette. C'était 50 mètres carrés, c'était pas beaucoup. L'intérêt de la grande distribution, au fil du temps, s'est un petit peu estompé, puisque au fur et à mesure que ces grands réseaux de distribution ont grandi, se sont regroupés, ont fusionné, etc., on se retrouve aujourd'hui avec des situations dominantes, des positions dominantes, et on n'a plus en France que 6 centrales d'achat qui contrôlent 90% des produits de consommation courante que nous consommons en grande surface. Je pense qu'il est intéressant de reprendre l'exemple du petit sablier qui sert à décompter le temps de cuisson des œufs à la coque. C'est un petit peu comme si on voulait faire passer par le haut 70 000 entreprises fournisseurs, 300 000 exploitations agricoles fournisseurs de la grande distribution, qui essayent de rejoindre tout en bas 60 millions de consommateurs. Et au point le plus étroit, vous avez 6 centrales d'achat qui vous disent où vous payez, où vous ne passez pas. C'est vraiment un système quasi mafieux, j'allais dire, qui vous impose de payer, qui vous rachète véritablement, qui rachète en tout cas les fournisseurs. Et si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avoir accès aux rayons de ces super et hypermarchés. En France, ça va continuer à se regrouper, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une situation de quasi-monopole. Véritablement, que le choix se restreint de jour en jour, et que si on n'y prend pas garde, eh bien c'est une véritable dictature de la consommation qui est en train de se mettre en place.
La ville Leclerc, la vraie.
Carrefour.
Auchan. La preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour.
Casino. Sourire suivant.
Faire des économies en France, c'est possible.
Christian Jacquiot évoque la perte de paysans chaque année, la réduction du nombre de paysans en France, liée en partie seulement bien évidemment, au phénomène du développement de la grande distribution, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel les activités de commerciales ou industrielles s'amenuisent. Entre 1965 et 2000, c'est-à-dire en l'espace de 35 ans, on a vu disparaître 18 000 boulangers, 42 000 bouchers, 2600 poissonniers, 73 000 épiciers, etc. On peut continuer 4300 quincailliers à travers le pays, alors que en 1965, nous étions 48 millions de Français et en 2000, nous étions à peu près 60 millions. Donc, on voit bien qu'il y a une perte considérable dans ces branches d'activité commerciale, et ce qui veut dire des pertes d'emplois, et ce qui veut dire aussi un appauvrissement, un amenuisement des liens sociaux, tant ce petit commerce, ce doux commerce, pour reprendre une expression très marquée par les Lumières, tend à disparaître et produit ce désert français. Quelqu'un disait la France s'en va en friche et les Français s'en fichent. C'est-à-dire que ceux qui racontent, qui sont censés décrire ce pays, la plupart du temps sont des gens comme nous, des journalistes, des urbains, des citadins qui comprennent pas trop, qui n'ont pas trop le sens de cette France, de ces paysages, de ces petites bourgades, de ces petites villes qu'ils traversent, pour aller au ski ou pour aller au bord de la mer en été, mais ne mesure pas bien toujours l'appauvrissement humain, des liens, de la culture, de la spiritualité, etc. Et c'est cet appauvrissement qui est produit aussi par ces hypermarchés et par cette grande distribution. Alors on va se consoler chez le buraliste du coin.
Alors en fait, vous faites papeterie, un peu librairie, buraliste.
Buraliste.
Bienvenue à l'âne savant. C'est vous l'âne savant ?
L'âne, c'est moi, et le savant, c'est ma femme.
Alors, juste pour vous, ce combat contre la grande distribution, auquel vous vous êtes quand même rallié, il a commencé quand ?
Il y a longtemps qu'il a commencé, mais je pense qu'aujourd'hui, la grande distribution, c'est la concurrence de l'argent. C'est un monopole d'argent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Quand on parle de concurrence, de liberté et tout, je dis que c'est impossible.
Vous savez, vous avez choisi, monsieur Lacroix, vous voulez un paquet cadeau ?
Oh, laissez faire.
Ouais, alors, vous avez des clients, surtout ?
Non, mais ma femme va arriver, je l'appelais. Elle est toujours sauvée par les femmes, vous savez bien.
Ouais, je les connais. Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui acceptent de s'installer dans des galeries marchandes. Au sein des grandes surfaces. D'ailleurs, quand Casino a voulu implanter son projet à Fétia, sur 20 000 mètres carrés, il y avait 10 000 mètres carrés pour l'hypermarché et 10 000 mètres carrés qui auraient dû être réservés à des galeries marchandes. Mmh. Pourquoi vous n'allez pas ouvrir votre librairie, bureau de tabac là-bas ?
Si vous allez au centre Saint-Martial à Limoges, combien de petits commerces sont fermés et combien sont encore fermés dans les galeries? Au début, comme toute chose, il y a des aides, il y a ce qui s'ensuit, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et on voit les magasins qui ferment parce que la rentabilité n'est plus suffisante. Mais ils ont aussi des loyers qui sont horriblement chers. Mais qui fait les loyers? La grande distribution. Moi, je prendrais le problème inverse. Combien la grande distribution va-t-elle supprimer d'emplois? Non pas combien elle va en créer, mais combien va-t-elle en supprimer?
Ça fait combien de temps que vous êtes commerçant à Condat?
19 ans.
Très honnêtement, depuis 19 ans, vous avez vu combien de grandes surfaces s'implanter dans la région de Limoges?
Carrefour, ce qui n'est pas le moindre. Si je peux parler, alors c'est quand même une baisse pour un petit commerce comme le mien, Carrefour à 5 km à peu près, hein, 70% de baisse de papeterie. Vous voyez?
Carrefour fait de la papeterie.
Carrefour fait de la papeterie.
Alors Carrefour?
Carrefour, Toys R Us, Castorama. Castorama, je vais vous dire, il devait y avoir 4 grosses quincailleries. Il n'en reste plus qu'une. Quand je dis des grosses quincailleries, c'était des gens qui devaient avoir au moins 10 ou 12 personnes.
De salariés.
De salariés. Super U derrière qui s'est agrandi. Après, il y a eu Jardiland. Après, alors, je vais vous prendre Condat. Une grande supérette, à côté, juste à côté de chez moi, a fermé.
Condat, combien d'habitants?
Bientôt 5000 habitants. C'était une coop qui a été rachetée par une grande distribution, qui est devenue un magasin non rentable et trop cher, et on a fermé le magasin. Sur Limoges, 4 ou 5 bouchers qui ont disparu. Ici, il a disparu, oui aussi, c'est vrai.
Le boucher de Condat?
Condat a disparu. Alors, quand nous, en tant que petit commerce, on entend parler d'un casino, on est quand même effrayé. On sait déjà qu'on en a beaucoup, beaucoup, et aujourd'hui, il va y en avoir encore d'autres. Alors, est-ce que c'est de la concurrence pour baisser les prix ou de la concurrence pour tuer les autres? On est dans un système de plus en plus libéral et on va dire on rentre dans un système mondialisation qu'on veut nous faire croire inéductable, mais peut-être que c'est à chaque individu d'essayer de lutter à sa façon contre cette peste galopante. Elle étrangle tout. Une grande distribution, alors on va prendre un problème financier pour des petits commerces. Moi, lorsqu'on me livre, c'est du paiement à 30 jours, on va dire. La grande distribution paye bien souvent, allez, on va dire, à 60 ou 90 jours. Ça, tout le monde le sait. Bon, ils gagnent combien sur ce qui est rentré et qu'ils investissent? Les 5% ou les 6%, ils ont déjà fait leur marge.
C'est-à-dire qu'en 90 jours, l'argent fructifie.
Ben exactement. Combien ça leur rapporte? Le produit, finalement, de base, c'est-à-dire la vente du produit, finalement, ça devient secondaire pour eux. Lorsque la grande distribution vous fait un produit acheté, un produit offert, pensez pas que c'est la grande distribution qui paye le deuxième produit. Parce que là, alors à ce moment-là, les gens n'ont pas compris ce que c'était que la grande distribution.
C'est qui? C'est le fournisseur?
C'est le fournisseur. Je veux bien vendre vos poulets, ou vos canards, ou vos carottes, mais vous m'en fournissez 10 tonnes et 5 tonnes gratuits, et je fais une promo. Et comme il ne peut pas faire autrement pour écouler ses carottes, eh ben, je prends des carottes, il s'abaisse et il donne des carottes gratuites. Ça, c'est un système que tout le monde connaît, à tous les échelons, et que tout le monde laisse perdurer. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'il y a des gros groupes derrière, et puis il y a des finances qui sont colossales.
C'est une victoire pour vous d'avoir réussi à faire reculer Casino, parce qu'on parle de Casino, en 2004.
Région, oui, il faut prendre ça comme une... Enfin, disons, une bataille. Petite bataille qu'on a gagnée, qui n'est pas sûre d'être gagnée. Parce qu'il n'est pas encore dit qu'il ne se construise pas.
Là, il y a l'appel. Aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. Voilà.
Moi, je dis qu'il se fera. Parce qu'il y a des pressions financières absolument énormes.
Parce que si je peux me permettre, parce qu'il est évident que quand une grande surface s'installe dans la commune, en contrepartie, et c'est ça les moyens de pression, je ne parlerai pas de dessous de table, mais bon, ils vont... là, ils étaient obligés de dépolluer, mais ils étaient prêts à faire... ici, c'est un aménagement de route, là, c'est un stade de foot, là, c'est un... etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même réellement de vrais dessous de table indirects. Les enjeux sont importants, mais on leur a quand même porté un coup.
Oui, vous êtes connu dans ce combat contre la grande distribution.
On s'est rencontré la première fois dans une réunion à la mairie de Condat. Bon, j'avais pris un petit peu la parole parce que je pense qu'il faut se défendre, même si on pense que c'est pas gagné, il faut se défendre.
La vie Leclerc. La vraie. Carrefour. Auchan. La preuve.
Géant Leclerc.
Avec Carrefour. Géant. Géant Auchan.
Casino. Carrefour. Sourire suivant.
Yvon Tricard, vous êtes toujours mon guide dans cette journée à travers un combat, le combat contre la grande distribution ici à Limoges. Ce matin, on est avec Lisa. Pourquoi vous avez voulu me présenter Lisa ?
On nous dit comme argument, ça va créer des emplois. La grande surface, ça va créer des emplois. Fetia Casino, ça devait créer 350 emplois. En fin de compte, on a fait la démonstration que, un, c'était pas 350 emplois, c'était 150 emplois à peu près pour la grande surface, plus une centaine d'emplois possibles dans la galerie marchande, dans les choses comme ça. Mais c'est surtout des emplois qui sont des emplois précaires, des emplois à temps partiel, des emplois éclatés, des emplois... Je veux dire, c'est pas des vrais emplois. Nous, aujourd'hui, on dit ces emplois de pauvres, parce qu'en plus, les salaires, ce sont des salaires vraiment très, très faibles, et je crois que c'est bien aussi de montrer que, quand on s'attaque à la grande distribution, je crois qu'on défend aussi les salariés qui en sont, et je crois que c'est vraiment démonstratif de ce qu'on veut pas.
Alors comment ça se passe ? Yvon disait, la grande distribution, en voulant implanter par exemple ce casino à Fétia, dit qu'elle va créer à peu près 350 emplois. Pratiquement, quels sont le type d'emplois que vous avez eu, le type de contrat que vous avez eu dans la grande distribution ?
Mais moi j'ai eu un emploi de caissière, donc avec un contrat de 26h50 par semaine.
Et vous aviez demandé un temps plein ?
Oui. Oui, mais c'est pratiquement impossible d'avoir un temps plein. Ils préfèrent recruter plus de caissières à mi-temps que de caissières à temps plein pour pouvoir dispatcher plus facilement les caissières dans la journée. Nos horaires changent d'une semaine sur l'autre. Donc on a nos horaires le mardi ou mercredi pour la semaine d'après. Et c'est complètement variable en fonction de la fréquence de la clientèle.
Ah, ça c'est pratique quand on sait ses horaires le mardi pour la semaine d'après, si on a des enfants ou si on veut organiser sa vie.
Mais c'est justement ça le problème, c'est qu'on ne peut rien organiser. On est obligé de rien prévoir la journée, de ne pas avoir d'activité à dehors.
Vous pouvez vous demander par exemple de venir 3h le matin et de revenir 2h le soir. Ou par exemple, oui c'est ça, après 17h c'est là où il y a vraiment du monde, voilà, et mettons autour de midi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Vous disiez 26h
26h50.
26h30 quoi.
Oui. Voilà.
Et ça pour un salaire de ?
Pour un salaire de...
Ça c'est un bulletin de paie.
639,52€, c'était en octobre 2000. 639,52€.
639€ net par mois pour 26h30 de travail. Puis alors, toujours ces très jolis noms, hein, hôtesse de caisse.
Oui.
Au Cora de Limoges.
Par contre, j'avais été voir d'autres magasins où un centre commercial m'avait demandé de rester chez moi pendant mes jours de repos et mes heures de pause, pour que je sois disponible au moment où s'ils avaient un souci, un manque de caissière. N'importe quand.
À n'importe quelle heure.
À n'importe quelle heure, donc j'avais refusé, je n'avais pas été embauchée. On est vraiment à la merci des clientèles, du bon vouloir du magasin. Mais c'était dur. On était surveillés par les caméras vidéo, donc pour surveiller les clients et pour nous surveiller aussi. Et aussi, il y avait aussi des fois, par moment, on avait des gens qui se présentaient à nous comme des clients. Mais en fait, ils étaient là pour nous contrôler, pour nous donner des notes. Pour voir si le magasin avait de bonnes caissières, s'il y avait des problèmes.
Vous, quand vous êtes partie, c'était forte ? Ou c'était vraiment un moment où vous disiez stop, maintenant ça suffit ?
Stop, maintenant ça suffit, j'en ai marre. Je m'en vais. Je craque.
Aujourd'hui, vous faites quoi ?
Je suis secrétaire. Mais là, je viens d'être licenciée économique, donc je suis à la recherche d'un emploi. Je suis dans la grande distribution, c'est sûr. Donc je cherche un secrétariat.
Yvan ?
Je suis en colère quand j'entends à chaque fois l'explication sur les conditions de travail. Je suis vraiment très en colère parce que c'est leur système qu'ils ont mis en place qui ne pourrait pas fonctionner, je dirais, si il n'y avait pas une super exploitation, un éclatement des emplois, une malléabilité complète du personnel, etc. Et ça n'a rien à voir avec, je dirais, les prix bas. Ça n'a rien à voir avec les prix bas, parce que Carrefour, par exemple, le numéro 1 français, c'est quand même une des entreprises qui est cotée en bourse au 4 40 et qui fait des bénéfices de manière considérable. Ils veulent garder ces bénéfices-là et ça les amène à ces conditions de travail. Il faut changer le système. C'est une course effrénée. C'est vraiment une logique économique qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une grande distribution sympa.
Hier, à Paris, gagné 0,44%, mais pour l'allemand,
merci à tous, merci à Lisa, Nathalie, Madefay, Yvan Tricard, Jean-Louis Pagès, Gérard Druet. À lire Les coulisses de la grande distribution de Christian Jacquiot, paru chez Albin Michel en 2000. J'espère que vous le trouverez encore. Ce bouquin est très intéressant et très bien fait. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Autre chose à noter, ce soir, mardi 27 février à 19h30, le repère de la Bastille, j'y suis à Aix-en-Provence, vous accueillera au Bulldog et Barister, place Miolis. Le thème de la rencontre sera celui de la monnaie. On va parler de monnaie ce soir dans ce repère de la Bastille, j'y suis à Aix-en-Provence. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission La Bastille, j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site France Inter ou bien sur le site labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Benoît Massir et Xavier Lévesque, c'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert, quant à lui, se tient près du répondeur, attendant vos messages, réflexions, réclamations, coups de cœur et coups de gueule, au 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il me reste trop peu de temps pour vous parler d'un bouquin qui vient de sortir. C'est un livre autour du travail du peintre Florence Mihail, chronique d'ici et d'ailleurs, avec un DVD des œuvres de peinture animée de cette remarquable artiste dont je vous reparlerai peut-être demain si vous êtes là. On se retrouve en tout cas demain à 15h pour la Basse, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Jacqueline Petros. Salut.